Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon norme WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC.
15h-18h.
Le Super Moscato Show. Vincent Moscato.
Il est 15h05, on y revient au Mastic, on est dans le Super Moscato Show, comme tous les jours, vous le savez. On est sur RMC de 15h à 18h, vous le savez, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. On vous en remercie. On est avec la truculente, la limonante, la spoumante, Marie-Zévan Gépé, quand même, hein, la spoum.
Écoute, un gros coup de fatigue. Hein. Je sais pas, il faut que je me dope. Je pense que c'est la tournée, là, votre tournée de déglingos, là, qui m'a déglingué.
Ah, d'accord.
Je pense que c'est ça.
T'as pris un coup de chaud?
Oui, je pense que voilà. Ouais. Il faut que je fasse une petite révision, je pense. Voilà, carrément. J'ai un radiateur qui fume. Non, mais là,
t'as pas peur de lever le capot, Marie-Zévan?
Non, mais je suis pas malade, Pierre, regarde, j'ai rien, là, tout va bien.
Ça juste sa fatigue, hein.
Ouais, non, mais toi, t'as pas pris ta Nivakine, toi, quand même. T'es quand même au Cameroun, il faut prendre ta Nivakine.
Bonjour, le docteur est là.
Bonjour,
je suis le docteur.
Avec son
thermomètre.
Avec
mon thermomètre.
Mais
c'est le
docteur.
C'est le docteur
Grognonès.
Non, c'est pas moi, le Grognonès.
Cette semaine, c'est pas toi.
Hier, c'est plus moi. Bisous, Marise, salut les copains. Voilà, comment ça va? Ah ben, ça va, impeccable. Écoute, content d'être là, ce jour de finale. C'est bizarre quand même, hein. On a mis la finale le vendredi pour éviter les travaux dans le métro ou dans le train à truc, et puis il y a la grève. Mais je comprends plus, moi. Je comprends plus.
C'est pas Marseille que ça s'est arrivé, tu veux dire, il n'y a pas le métro.
Non. Oui, il y a le métro.
Il y a métro Marseille,
bien sûr, quand même. Il y a le métro, il y a le tramway.
Ça doit être propre. Il y a deux lignes, non?
Métro. Oui.
Ouais,
tramway, oui.
Tu l'as jamais pris,
Oui, 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 je l'ai pris. Non, parce que moi je le prenais beaucoup quand j'étais au centre de formation. Mais c'est vrai que depuis, je le prends moins quand même.
J'ai ma petite mobilette. C'est affreux quand tu vis dans une ville. Au moins tu connais le métro, c'est la moindre des choses quand même.
Mais juste toi. Oui, alors je suis sûr d'avoir plus pris le métro à Paris que toi.
Paris,
moi je l'ai pris beaucoup, moi, le métro au début là.
Ah, à Paris,
quand je venais bosser.
Moi je l'ai pris beaucoup à Gaillac. À Gaillac, je l'ai pris beaucoup. Adrien,
comment ça va,
mon petit poulet, comment ça va?
Très bien. Bon, moi j'aime ces jours de finale, tu sais, à 17h58, je serai dans le métro direction le Stade de France. Voilà.
Tu vas voir la finale.
Ah, bah, qu'est-ce que tu veux faire?
Finale, ça se regarde
en finale, j'y vais.
Tu arrives à avoir encore des places, toi, avec tout ce que tu dis de mal sur la Fédé, sur la Ligue et tout?
Billetterie de la Ligue, 40 euros, Eric. J'ai acheté mes places avec mon ami.
40 euros, mais t'es où? T'as pris un
stade
pour le pressing parce que tu dois être en haut, là, toi, te faire chier sur les épaules par les pigeons.
40 euros.
Le prix de classe.
Je suis Vincent Porte-Cas. Je sais pas ce que c'est, mais c'est Porte-Cas. Ouais,
Porte-Cas, si tu vois l'essai, tu nous l'écriras parce que d'après moi, tu le verras à la télévision.
Écoutez, je vous enverrai des photos ce soir.
Porte-Cas, parce que Porte-Cas,
rien à voir. Porte-Cas, le mec qui me propose le Porte-Cas, j'y mets un coup de hâte, mon pauvre.
Question moyenne. Et je vais vous demander à toutes et tous de ne pas vous échapper, puisque certains s'échappent en ce moment, Eric.
Mais dis-moi, cette semaine, par contre, oui. Il va falloir faire un débat sur ça.
Oui.
On peut pas faire une émission avec des mecs qui s'échappent tous les jours.
Question moyenne, avec l'interdiction de s'échapper. Finalement, ce soir, vous êtes pour qui?
Finalement, ce soir, vous êtes
pour qui? Le Castres Olympique ou Montpellier? Vous devez choisir tour de table. Éric Dimeco.
Mais commence par notre chef de.
Je vais terminer par lui, Éric.
Mais non, au contraire, il faut l'envoyer au feu de suite. Sinon, il va faire.
Non, il y a une règle. C'est Adrien qui pose la question. Il s'adresse à Éric Dimeco, notre feu de
chef. Marise.
J'ai répondu, moi. Montpellier.
Marise, c'est évident, c'est Montpellier. Moi, vu que je connais Philippe et que Montpellier a jamais gagné, je serais plutôt tendance à Montpellier aussi.
Pierrot Dorian.
Moi, plutôt pour Castres, vous savez bien.
Oui, toi, tu as bossé à Castres. Et alors
il est en tournée en France toute l'année.
Voilà. Il est capable de jouer à Montpellier et à Castres.
Je ne sais pas pourquoi ça va être la journée, Vincent.
Je ne sais pas pourquoi.
Castres Montpellier, tu es pour qui? C'est un match de rugby, t'as une préférence.
Une préférence, hein, quoi. Ouais.
Est-ce que je peux répondre comme Pierrot hier? Non.
Castres Montpellier. Tu es pour qui?
Ah non, mais. Alors
mais comment c'est possible que les mecs,
on les a émasculés, c'est pas possible.
Tu peux avoir une préférence, tu as le droit.
J'ai le droit d'avoir une préférence, mais j'ai quand même un petit commerce qui tourne un peu dans toutes ces villes quand même.
Oui, mais attends, les gens vont
mais
pas t'en vouloir.
Allez, moi je vois. Non, je sais.
Il va dire parce qu'il y a une plus grande salle.
Alors, j'aimerais. C'est vrai que ce petit zénith à Montpellier quand même n'est pas désagréable. Et j'aimerais sincèrement que, d'abord, que le rugby sorte gagnant. Parce que c'est pas.
Finalement, c'est pas fini.
On peut pas lui donner son vendredi finalement. Vous pouvez le laisser finir. Mais je suis pour Castres. Voilà, tout simplement.
Ah, c'est pour Castres.
Mais là, au moins, il y a une explication rationnelle. Et du coup, on comprend pourquoi la semaine dernière.
Si Guirado partait avec un titre, ça ne me déplairait pas non plus.
Mais tu es pour Castres. Pour le communiqué du Zénith de Montpellier, date de Vincent Moscato annulée. Pour raison, je ne sais pas.
Celle-là, Adrien, si elle est annulée, ma date, tu vas me la payer, toi, encore.
Oui, mais c'est cher.
Sur Rogue. C'est toi qui vas me la payer.
Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que sa préférence explique pourquoi la semaine dernière, quand on lui réclamait à corps et à cri un débat sur Montpellier, il n'a pas voulu le faire.
Donc ça, c'est ça. La France du Moscato Show a tranché. Vous répondez le Castres Olympique à 54,3%. C'est assez partagé, finalement.
Ah, c'est le petit est toujours sympathique.
Ce soir, 20h45, la finale sur RMC.
Non, c'est pas le petit.
Montpellier, c'est une grosse cylindrée du championnat.
En termes de budget, c'est une grosse cylindrée.
A priori, c'est quand même plutôt Montpellier le favori, finalement. On s'est laissé endormir par Philippe. Hein.
Donc Vincent préfère Castres. Enchaîne, Pierrot.
Voilà. Alors, au programme.
Et le cri haut et fort.
Au programme. Attention, Vincent, le héros de la semaine, Léon Marchand, sera notre invité à 17h30 avec ses trois médailles autour du cou. Avant cela, Neymar est-il compatible avec un PSG moins bling-bling? Votre avis au 32-16 tout de suite. Le Tour de France, ça démarre dans une semaine, jour pour jour. Quel tour pour Alaphilippe? Il va juste reprendre la compétition dimanche. Là, ce sera sa première course, les championnats de France, depuis sa grosse chute. Et puis, ce que fait Castres, est-ce encore plus fort que Toulouse? Vincent, on va en débattre à 17h, bien sûr, pour parler de la finale. Là encore, il faudra se mouiller. Il faudra vraiment répondre à la
question. C'est pas une émission pour Vincent.
Vous le faites esprit, quoi. Vous le faites esprit avec ce beau casino barrière à Toulouse, quand même. Vous le faites esprit, quoi.
Le Kikadi. Bien sûr. Alors, le Kikadi du vendredi est réservé aux artisans. Je vous le rappelle, on vous offre un séjour magnifique dans un hôtel 4 étoiles, Baie des Anges, Talazur, à Antibes, pardon. Vous envoyez Kikadi par SMS au 732-16. Adrien,
je vous conseille d'écouter un peu Struff, puisque ce soir, il y a du rugby au Stade de France, mais c'est la nouveauté maintenant. Après le match, il y a deux concerts, deux shows, Vincent, avec deux artistes. Vous allez me dire si vous validez ou pas les idées et le concept du concert pour public rugby.
J'aime bien quand c'est après.
Ouais,
pas quand c'est avant ou au milieu. C'est bien parce que ça permet de faire un peu la fête et tout.
Ça fluidifie les retours.
C'est Lorenzetti qui a fait ça au départ, je pense. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a trouvé, mais au truc à Nanterre, ça se fait très très bien. Après, bim, un peu le. Tu vois, la
boîte de nuit. Boîte de nuit au Paris Défense. Boîte de nuit.
C'est dommage qu'on se soit fâché avec tous les clubs de top 14 à cause de ça, parce que ça doit être bien d'aller voir des matchs là-bas avec la
Lorenzetti derrière. C'était bien, Eric.
Ouais, mais pourquoi il faudrait que ce le fasse. Avec un bon match.
Avec ces avis trahichés comme ça qui nous déversent la longueur d'émission, là on s'est fâché avec tout le monde.
Allez, tout de suite, on démarre avec l'entretien d'évaluation de Neymar avec Nasser Al-Relaifi.
RMC, le Super Moscato Show.
Ça va bien, toi, bonjour.
Prenez pas mon année, fixez-vous des objectifs.
Comment? Let's go.
Muscle ton jeu. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention.
Aïe,
je t'assure, tu vas voir des déconvenus parce que t'es trop gentil.
Aïe, j'ai parlé français.
Voleur, ça veut dire l'obligation de mettre en route le jeu.
Si c'est Paris. Breaking
news. Alors Nasser Al-Relaifi a promis un PSG moins bling bling, on en a parlé cette semaine. Donc les regards se sont naturellement tournés vers Neymar. Le Brésilien arrivé il y a 5 ans symbolise l'échec de la politique de star du club parisien. Il est aussi l'un des meilleurs joueurs de l'effectif et puis il affirme lui que sa tête n'est qu'à Paris. Alors Neymar est-il compatible avec un PSG moins bling bling? Votre avis tout de suite au 32-16. En fait, pourquoi est-ce qu'on parle de Neymar? Parce que il a donné 3 interviews, Nasser Al-Relaifi, et dans les 3 interviews, vu sa déclaration d'intention, une question sur Neymar lui a été posée, à laquelle il n'a pas répondu. C'est ce qui entretient le doute. Neymar fait-il partie du projet? Il a dit, on ne parle pas de ce genre de choses en public, mais des joueurs partiront, d'autres resteront. Donc c'est ce flou qui fait que l'avenir de Neymar est en pointillé. Vincent, la question posée est la suivante, est-ce que c'est compatible avec un PSG moins bling-bling, Neymar?
Mais si t'as Neymar, c'est pas compatible. C'est comme si tu mets Neymar et si tu dis à Briatore de pas avoir le boulard. C'est pareil. Tu dis à Briatore, alors on va tout changer. Tu roules en voiture, tu roules en deux chevaux.
Tu deviens humble.
T'as la femme la plus moche du quartier et puis tu la fermes. C'est pas possible, tu vois. C'est impossible. Lui, il faut qu'il soit en Ferrari avec nommé une Campbell à côté.
Avec qui?
Neymar.
C'est sa cousine Germaine, mais pareil qu'elle est beaucoup moins bien.
C'est la cousine du Tarn.
Mais alors que Neymar, c'est pareil. C'est Michael Jackson. Ils l'ont traité comme ça, ils l'ont fait venir pour qu'il fasse des pirouettes et qu'il mette des costards rouges. Et sur le terrain, après, on a vu ce que ça donnait plus rien. Je pense qu'ils essayent de s'en séparer. Le problème, c'est que qui va mettre. Ils veulent rentrer un peu dans l'orbille. Mais là, il s'est un peu coincé. Ouais. C'est pour ça que la serre, il a un peu le cul entre deux chaises. C'est qu'il ne peut pas trop parler parce que je pense que s'il avait un club qui arrive en lui mettant. Même 70, même 80, pas plus, hein. Alors qu'ils l'ont payé, je crois, je me rappelle plus, 150,
220.
120.
220. Même à 50. 220.
220.
Il est bien.
Je savais qu'il allait équilibrer comme
mon
ça.
Mon Dieu. Mais tu te rends compte. L'arnaque du siècle. Mais alors là, c'est la vraie arnaque. Je pense que ça, on n'est pas prêt de la battre, cette arnaque. Parce que le mec, quand même, n'a fait que des moments contre Dijon. Et alors, une fois, peut-être en demi-finale, vous allez me rappeler, bien entendu, pour 220 millions, c'est la moindre
222, chose. Exactement.
Non, c'est pas possible. Il n'est pas compatible. C'est le bling-bling que voulait Nasser Al-Rififi. Il s'est fait prendre. Il voulait du bling-bling. Là, il a eu super bling-bling. Et s'il ne s'en sépare pas, mais ça continuera. Tu peux pas changer. Tu peux pas changer le tempérament. Et puis Neymar, il n'existe que par rapport à ça maintenant. En regardant en faisant des trucs comme ça, demandant des messages sur Internet et tout ça. C'est tout. C'est impossible.
Nouveau PSG?
Non, c'est la déclaration d'intention de Nasser Al-Khelaifi.
Il a un goût de banane un peu.
C'est fini. Le bling-bling, c'est fini.
On n'a pas la preuve encore. On n'a pas les faits.
Pour l'instant, on part d'une petite déclaration. Mais c'est vraiment Canada Dry parce que ça a le goût, l'odeur, tout pareil, les paillettes, tout ce que tu veux, mais.
Non, c'est déjà pas mal,
ça
les
a pas.
On part sur une déclaration parce que des fois on fait des débats, il n'y a même pas de déclaration. Donc là, c'est déjà bien.
Non,
c'est
non, progrès, au moins, c'est de source sûre. Tu n'as pas tort, on part de quelque chose, voilà. Déjà, d'un point de départ.
Une volonté de Nasser.
Écoute, déjà, il faut savoir quel Neymar, parce que si ça redevient un joueur de foot et qu'il est cadré. Tu peux en avoir besoin. Maintenant, c'est sûr que quand on regarde depuis qu'il est arrivé, ce qui s'est passé, alors on va mettre de côté ses absences, ses blessures, parce que ça peut arriver. Mais bon, les frasques, je suis même pas sûr que ce soit les frasques, mais c'est
global.
Oui, on a l'impression. Enfin, moi, j'ai l'impression que le football qui a sûrement été sa première passion ou le truc pour lequel il était concentré à 100%, peut-être au début de sa carrière pendant un long moment, là j'ai l'impression, on a l'impression que c'est plus sa priorité, quoi, parce que il fait plein de trucs, ce mec. C'est des entreprises du CAC 40 à eux seuls, les mecs. Donc à un moment donné, il s'éparpille et le football n'est plus la priorité. Donc si le football redevient sa priorité et qu'il y a un coach qui arrive à le responsabiliser, il peut rendre de gros services. Mais vu ce qu'il a fait au PSG depuis qu'il est arrivé et ce qu'il a fait ces derniers temps notamment, on a des doutes, quoi. Mais... Et en plus, quand le président du PSG parle comme ça, d'ailleurs, si on fait le débat sur Neymar, c'est pas le hasard, c'est parce qu'on pense qu'il parle à lui. On parle à lui. J'ai pas fait une.
Qui lui parle?
Non, mais parce que là, vous m'avez fait passer.
On parle quand même à quelqu'un.
À quelqu'un. Oui. Pierrot, je vous demande parce que vous m'avez fait passer un peu trop de temps dans le triangle des Bermudas la semaine dernière.
Non, mais c'est bon, ça passe.
Et je te jure,
le triangle des Bermudas, il va des fois à Marseille.
Nous, on parle comme il faut à Marseille. Et donc, du coup, des fois, j'ai des doutes. Donc, on avait l'impression qu'il s'adressait à Neymar, le président. Ou en tout cas, qu'il pointait du doigt Neymar. Parce que c'est malgré tout, dans ce club-là, celui qui focalise un petit peu l'attention sur les mecs qui sont pas trop concernés par le projet, ou en tout cas un peu moins que certains. Voilà, donc si on se pose la question, c'est parce qu'il y a un vrai doute. Maintenant, je le répète, si le football redevient sa priorité, alors je sais pas comment il faut le prendre, hein, parce que là c'est facile à la radio, on fait des grands raisonnements, gérer un mec comme ça, ça doit pas être évident. On va voir si le futur coach ou voire même si le président avec ses déclarations d'intention derrière ça suit. Mais si tu lui sers un peu le kiki, je passe pas le Kylian, hein, le kiki. Je pense que ce mec là peut te faire gagner des gros matchs. Ça c'est indéniable. Oui, mais c'est plus un joueur de foot. C'est plus un joueur de foot.
C'est un espoir, voilà. C'est un espoir parce que tu veux te parler de ces
mecs. Non, mais là, on juge sur ce qu'il a fait ces derniers temps. C'est clair que tu te dis, bon, mais il a plus sa place dans ce projet. Si vraiment, c'est pas du vent, ce qu'on raconte.
Vincent, moi, je suis sûr que malgré tout, parce que ça reste un joueur de foot extraordinaire, Galtier.
C'était un joueur de foot.
Oui, voilà. Non, mais à la base. Je suis sûr que Galtier, imaginons, c'est Galtier qui entraîne le PSG, Pierrot. Je suis sûr que Galtier.
Non, mais déconne pas, on va le perdre à 15h20, Pierrot. Il va nous faire une amoulée.
Je suis sûr que quand il pense à son équipe, hein, etc., Galtier, il connaît le foot mieux que nous tous. Il doit se dire, je vais tenter. C'est pas possible.
Sûr et certain.
Je veux, moi, essayer de le mettre dans les meilleures dispositions.
Pour n'importe quel entraîneur, quel que soit l'entraîneur.
Il n'y a pas fait une croix sur Neymar, Galtier, c'est pas possible.
Je pense que quel que soit l'entraîneur qui arrive à Paris, il aurait envie d'essayer, en tout cas, de travailler avec Neymar.
Je vais te dire.
Je vais essayer, puis si ça marche pas, on verra bien. Mais par rapport au prix qu'ils l'ont payé, quelque part, je pense qu'il vaut mieux prendre le risque d'essayer d'arriver à le faire jouer. Plutôt que de le vendre en dessous du prix, quoi.
Je vais te dire, il va, bien sûr que si c'est galette, mais si c'est un autre, c'est pareil, parce que regarde, ils ont tous essayé. Et je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, parce que s'ils y arrivent, un Neymar qui est bon, c'est quand même un plus et ça peut te faire gagner de gros matchs. Mais c'est surtout que si tu y arrives à plus, tu peux dire, moi, j'y suis arrivé. Les autres, ils sont pas arrivés. Tu vois, oui, là, tu peux ronfler.
Alors, écoute-moi, ça se réfléchit quand même. Parce que Galette, il faut pas qu'un mec comme ça lui perturbe son groupe. Il a dit depuis 4 ans quand même.
Oui,
je sais
mais
pas, un entraîneur qui prend du recul, il espère, et c'est factuel ce qu'il fait là. Je veux dire, il a été jugé par des actes sur ces dernières années quand même, Neymar. Et moi, je vais te dire un truc, l'intelligence, c'est de savoir à un moment donné dire non. Et moi, je suis
Galtier. Coach, il est obligé de le tâter.
Vas-y, Marie. C'est surtout, Pierre et Eric, que je pense que Neymar n'est pas capable de changer. C'est trop
ça.
Je pense pas qu'il puisse changer parce que est-ce qu'il a sa place dans un nouveau projet? Oui, effectivement, si ça s'agit, c'est un excellent joueur. Évidemment qu'il a sa place. Mais par rapport à son indépendance, à ses coups de sang, de partir en vacances, de revenir, enfin, etc., de faire des anniversaires, tout ce que tu veux, je ne vois pas Neymar changer. Vraiment pas du tout. On le voyait encore ces derniers temps, on rigolait sur ses réseaux des entraîneurs qui essayaient de sanctionner les types qui arrivent en retard à l'entraînement. Donc, je pense sincèrement qu'il n'est plus en mesure, à l'âge qu'il a, de changer. Donc, même si le groupe change, bah, quelque part, le groupe va l'exclure de lui. Enfin, tu vois, il va être à la marge.
Non, je trouve que tu as un jugement qui est quand même altéré par quelque chose, c'est que son principal problème, ça a été ses blessures, malgré tout. C'est-à-dire que hors blessure, il est performant. Quand tu me dis qu'il ne marque que contre Dijon, je pense sincèrement que tu as une vision qui est complètement altérée par l'aversion que tu as pour ce mec. Parce qu'en vérité, dans le vestiaire, il n'y en a pas vraiment. Et son vrai problème, c'est qu'il ne joue pas.
Non, mais c'est un état d'esprit général, Pierrot. Non, mais c'est pas des phrases. Toi, si tu veux, c'est un état d'esprit général.
Penser aujourd'hui que ce mec n'est pas capable de te faire gagner, j'espère juste que le club ne fera pas cette erreur-là.
C'est-à-dire que si
tu t'en sépares, il faut t'en séparer pour les bonnes raisons. Tu fais ton deuil et tu dis, bon, bah, tant pis, le pari est perdu, il ne nous fera pas gagner pour XX raisons, ok. Mais dire, allez, il est nul, au bout de 5 ans, il ne nous a pas fait gagner, on le dégage, ça serait une erreur monumentale, et ce serait complètement stupide.
C'est une économie. Ah oui, mais Pierrot, c'est une économie. C'est un peu naïf ce que tu penses. C'est gentillet. Mais quand même, quand tu payes à la fin du mois, t'as quand même des résultats, t'as quand même des comptes à tenir.
Oui, mais quand il joue, c'est bon.
C'est un état d'esprit qui dégage sur les autres. C'est un leader. Ce type-là, par son jeu, par sa qualité, doit être un leader. C'est un message que t'envoies aux autres. De décontraction, de passion moyenne, de laisser aller, de type qui n'est pas sérieux, qui s'en va quand il s'en va, il ne revient pas. revient pas, il revient 3 jours après, 4 jours après. C'est un groupe que tu as tenu.
Ça, c'est dans ta tête, ça. Jamais il est revenu en retard. Jamais. Mais c'est pas parce qu'il est parti au Brésil quand il était blessé. Mais non, jamais il est revenu. Le problème, c'est que je pense vraiment qu'en France, on a une image tellement détestable de ce mec qu'on vient en faire un boulet, un joueur moyen.
Il y a quand même eu des débats quand même quand il va se faire soigner au Brésil et tout.
Bah oui,
c'est une occasion pour filer. Voilà. Oui, mais moi, nous, on les connaît ces histoires du gars qui va se faire soigner au Fidji ou en Afrique du Sud parce qu'il veut rentrer chez lui. On la connaît l'histoire. Il a sorti, il rentre en retard et il fait traîner. Mais non, Pierrot, tu excuses quelque chose, tu es naïf là-dessus. Et surtout, tu excuses quelque chose qui est du, c'est de la tricherie. Ce n'est pas de l'honnêteté. Ce n'est pas de l'honnêteté. Et surtout, il n'est pas bien au PSG.
Point. Et surtout, quand tu es blessé et que tu dois mettre 15 jours pour revenir, je dis n'importe quoi sur une blessure, et que tu mets 3 semaines, 1 mois parce que tu es parti là-bas, parce que tu as dansé la lambada, ou parce que tu es jusqu'à 4 heures du matin sur les télénovelas, en train d'envoyer des tweets ou des Instagram, je sais pas quoi, là. Pierrot, c'est pas en adéquation avec le, tu vois, il me semble,
Pourquoi il se blesse? Rappelle-toi, Leonardo, qui avait dit à l'époque, quand il était encore directeur sportif, il a dit, une partie de mon travail, c'est d'éviter ça, justement.
Mais voilà.
Le gars se couche à 3 heures du mat.
Je me souviens quand même, on les a fait les débats là, au printemps, voire à la sortie de l'hiver, où on se demandait pourquoi il n'arrivait plus à éliminer les mecs sur le terrain. Que on les a fait ces débats ou on les a pas fait?
Si tu le juges
sur les 5 ou 6 derniers matchs, match Higuaricó, moi ça compte pas.
Je pense quand même qu'il y a quand même un délit de sale gueule. Alors il a cherché. Je te dis franchement, en termes sportifs, tu me demandes aujourd'hui de choisir entre Messi et Neymar, je prends Neymar, hein, sans aucun problème. Parce que l'autre, il est peut-être plus professionnel, mais pas du tout impliqué. Il en a absolument rien à cirer.
Oui,
c'est-à-dire que c'est un peu trop facile, parce que le mec, ok, c'est une diva, il est spécial, je te l'accorde sans problème. Mais en fait, on a décidé qu'en toutes circonstances, le vilain petit canard, c'est lui. Et moi, je te dis, on est en train de refaire la même erreur qu'avec Thiago Silva, c'est le bouc émissaire idéal. On se dit, le PSG, c'est trop bling bling, allez, on vire Neymar. On lui coupe la tête et tous les problèmes seront résolus.
Mais je pense que
c'est un raisonnement que moi je trouve complètement débile.
Ouais, voilà. Mais Pierrot, je te signale que dans le débat, je t'ai expliqué que le futur entraîneur, on pense que c'est galette, mais il est obligé de l'impliquer, et je vais te dire, il va être content d'avoir Neymar dans son effectif.
N'importe quel
entraîneur. Par contre, peut-être que il aura moins de patience que les autres, surtout s'il est aidé par sa direction, si le mec n'est pas sérieux, si le mec est tout le temps blessé, et si le mec fait un bon match sur 3, quoi, tu vois, notamment sur les gros matchs et tout. Mais tu es obligé de l'impliquer, parce que c'est un mec qui peut te, s'il est impliqué, peut te faire gagner des matchs à lui seul, c'est clair.
Allez, le Super Moscato Show, ça continue. On parlera de l'OM tout à l'heure avec un départ dans l'effectif. Mais d'abord, les violences sexuelles dans l'athlétisme. La parole se libère grâce à Emma Oudiou. C'est notre invité dans un instant sur RMC dans le Super Moscato Show.
Il est 15h27. On est sur RMC dans le Super Moscato Show. On revient tout de suite.
RMC. 15h18h. Le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 15h32, on est sur RMC dans le Super Moscato Show. Marie-Zéven Gépé, Eric Dimeco, Adrien Aigouet, mon petit Pierrot, dans 1/2 heure.
Dans 1/2 heure, le Tour de France et surtout le retour de Julien Alaphilippe qui va courir pour la première fois depuis sa chute dimanche au Championnat de France. Et 5 jours plus tard, c'est le départ du Tour. Alors quel Tour pour Alaphilippe? C'est donc à 16h. Mais d'abord, notre cri du cœur.
RMC, le cri du cœur
du Super Moscato Show.
Nous recevons Emma Oudiou, ancienne athlète de l'équipe de France d'athlétisme, qui a mis en ligne gratuitement sur YouTube le documentaire Suite sur les violences sexuelles dans son sport, dans l'athlétisme, dans le sport de Maryse. Bonjour Emma.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Salut Emma. Bonjour. C'est accessible gratuitement, je le redis, parce que le but est bien sûr de faire connaître ce que tu dénonces, hein, ce que tu montres en tout cas dans ce documentaire qui s'appelle Suite, pour faire écho au classement sans suite, suppose, de certaines plaintes.
Hein. Ouais, c'est ça.
Alors, le documentaire est construit de manière très simple. Ce sont des témoignages de femmes. En l'occurrence, elles sont 5, mais tu aurais pu en mettre d'autres, car tu as eu d'autres retours. Victimes de violences sexuelles dans le cadre de leur pratique d'athlétisme, c'est ça qui fait le lien hein, dans toutes ces histoires. Dis-nous simplement, pourquoi ce documentaire? Comment t'es venue l'idée
malheureusement
de le faire?
Malheureusement, parce que j'ai moi-même été victime de violences sexuelles dans le milieu de l'athlé. Donc j'ai déposé une plainte en 2018 contre un coach national. Une plainte qui a été classée sans suite. Et j'ai décidé petit à petit d'en parler sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et en parlant, je me suis rendu compte qu'il y avait de plus en plus de jeunes femmes qui venaient me parler de ce qu'elles avaient subi, notamment dans le milieu de l'athlé, étant donné que c'était mon sport. J'ai fait du haut niveau dans ce sport-là pendant 10 ans. Et donc elles venaient me parler et j'en avais marre en fait de simplement pouvoir leur répondre que j'étais de tout cœur avec elles et d'avoir vraiment ce sentiment grandissant d'impuissance. Et donc je me suis dit bon bah pourquoi pas faire un docu. Donc j'ai fait un appel à témoins, j'ai mis en place une cagnotte sur les réseaux sociaux pour pouvoir financer ce projet et on l'a lancé en janvier et là il vient de sortir lundi dernier.
Alors donc il y a ces 5 témoignages avec un point commun, c'est-à-dire que les témoignages mettent en lumière des relations de domination notamment psychologiques entre entraîneurs et athlètes, mais pas uniquement, également dirigeants. Il y a un témoignage d'une des femmes qui est accablant sur un président de club notamment. Est-ce que tu as l'impression que c'est propre au sport de haut niveau et propre à la relation entraîneur-entraîné ?
Alors je pense que c'est des violences qui se retrouvent dans toute la société. On entend de plus en plus de ces révélations dans tous les milieux. Mais je pense quand même que le milieu du sport, et d'ailleurs il y a plein d'études qui le montrent, le milieu du sport est quand même particulièrement propice à ce qu'il y ait ce genre de violence pour plein de raisons différentes. Parce que quand on rentre dans le sport, on est très jeune, donc ces systèmes de domination sont d'autant plus faciles à mettre en place. Il y a, quand il s'agit d'entraîneur, c'est hyper facile pour l'entraîneur que l'athlète ait une confiance aveugle. Donc on se méfie pas, on fait confiance et il y a très facilement des violences qui se mettent en place. Et tu l'as très bien dit, il y a des violences psychologiques, il y a des violences sexuelles. En fait, les violences sexuelles ne sont absolument pas isolées de plein d'autres violences. Il y a la maltraitance également à l'entraînement qui permet petit à petit de mettre ces violences sexuelles en place.
Alors tu le dis juste un moment là-dessus, après je donne la parole à Maryse. Explique-nous ce que c'est la culture du doloris dans l'athlé, qui permet en fait la réalisation de certaines violences sexuelles.
Ouais, donc le dolorisme, c'est un concept dont parle notamment Béatrice Barbus dans un de ses livres sur le sexisme dans le milieu du sport. Et en fait, c'est cette culture, cette valorisation de la douleur et de la souffrance. Et le problème de cette valorisation-là, c'est que l'athlète se retrouve dans une situation où mettre des limites sur ce qu'elle accepte ou n'accepte pas de la part de son coach ou de la part du milieu du sport, ces limites sont hyper floutées.
Parce que plus je souffre, plus je serai forte.
Exactement, c'est totalement cette culture. Et donc, une fois que les violences sexuelles arrivent, bah, qu'est-ce que je fais en tant qu'athlète ? J'accepte, j'accepte pas. On m'a toujours appris que mon corps était là pour endurer et ça facilite grandement ces violences sexuelles.
Emma Oudiou, donc avec nous dans le Super Moscato Show. Le documentaire s'appelle Suite et il est en accès libre sur YouTube. On parle de violences sexuelles dans l'athlétisme, Maryse.
Oui, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Je le dis souvent, j'ai une haine absolue du no pain no gain qui est souvent une entrée vers la maltraitance dans le sport. En plus, on sait très bien se faire mal. J'allais dire qu'on finit une séance, plus on a mal, plus on se dit ah j'ai bien travaillé aujourd'hui. Donc on n'a pas besoin qu'on en rajoute là-dessus parce que effectivement pour atteindre le haut niveau et particulièrement dans des disciplines comme celle d'Emma qui pratiquait le 3000 mètres steeple, le 2000 mètres steeple,
3000,
la souffrance elle est quasiment permanente parce que pour gagner des paliers, pour progresser, on va avoir des séances qui sont extrêmement dures. Et donc, si on a une psyché qui est un peu fragile, ou tout simplement une psyché sur laquelle règne quelqu'un de tout puissant depuis pratiquement l'enfance, puisque pour certaines, on commence, alors dans les sports à maturité précoce, c'est encore plus vrai, on peut commencer à 6-8 ans, notamment en natation, en gymnastique, en tennis, aussi bien chez les garçons que chez les filles. Mais tout d'un coup, effectivement, on a une confiance absolue dans le guide qui apparaît comme la figure paternelle ou maternelle, puisqu'il y a aussi des femmes entraîneurs, bien sûr. Et c'est vrai que l'histoire d'Emma m'a beaucoup touchée, pour les mêmes raisons qu'elle-même a été touchée par les jeunes femmes auxquelles elle a donné la parole. C'est que ça arrive depuis toujours. Je suis très émue. Quand j'ai vu son film, j'ai pleuré tout le temps quasiment, mais je suis très émue parce que je me rends compte qu'en fait, rien n'a changé. C'est-à-dire que on est dans une situation, et elle le montre très bien dans son reportage, où aucun nom n'est cité pour diverses raisons, essentiellement parce que beaucoup d'affaires sont encore en cours et parce qu'il ne faut pas risquer la diffamation. Elles ont déjà fait assez de boulot comme ça, je trouve, pour dénoncer. Mais en fait, on se rend compte que ce qui est primordial, c'est la prise en compte des victimes. Et je ne parle même pas de la libération de la parole, puisqu'on est dans cette phase de libération, mais la prise en compte. On a beaucoup parlé avec Emma Or, et c'est la première fois en fait qu'on s'est rencontrés, ça a été au film, alors qu'on échangeait depuis longtemps, on se suit depuis longtemps.
Sur Instagram.
Mais c'est vrai qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a jamais, mais jamais, de suite donnée après la plainte déposée.
C'est un des problèmes.
C'est un énorme problème.
Qui transpire de ce témoignage.
C'est la communication.
Les plaintes sont très rarement suivies des faits, en fait.
Et même quand elles sont suivies des faits, il n'y a pas forcément de retour. Par exemple, quand il y a un signalement qui est fait à la fédération, moi, en tant que présidente de club et entraîneur, il m'est arrivé à plusieurs reprises de faire des signalements et des signalements graves. Un an après, quand tu dis « Oh, alors, comment ça se fait ? J'ai pas de retour. Si moi, j'en ai pas, la victime non plus. Ah oui, oui, non, mais en fait, on va vous écrire, mais pour l'instant, c'est pas traité pour tel. » En fait, la victime n'a pas de réponse.
Comment on l'explique ça ? Pourquoi il n'y a pas de suite beaucoup plus concrète et rapide ?
Bah, je pense que c'est parce qu'on n'est pas encore suffisamment sensibilisés à tout ce qui se passe, que nos dirigeants, que ce soit au niveau des clubs, au niveau de la fédération, peut-être même au niveau du ministère, ne prennent pas suffisamment ce qui se passe pour les victimes de manière sérieuse. C'est-à-dire que on le voit aussi dans le documentaire. Il y a donc toute la première partie où les filles parlent concrètement de ce qu'elles ont vécu en tant que violence sexuelle, et ensuite il y a une deuxième partie qui s'appelle Vivre avec, où on voit toutes les conséquences qu'il y a pour ces victimes, qui sont absolument terribles. Il y a des victimes qui peuvent souffrir de dépression, elles sont traumatisées. Si elles ne sont pas, si tout ça n'est pas traité d'un point de vue thérapeutique, elles peuvent traîner ça pendant des années. Donc c'est des choses qui sont extrêmement graves, et il faut que les dirigeants le prennent en compte et qu'ils prennent aussi en compte en quoi eux participent à ces violences.
Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur du phénomène, Emma, toi qui travailles là-dessus, mais pas de manière, comment dire, pas dans un cadre scientifique en tant que victime et en tant qu'être humain, as-tu une idée de l'ampleur du phénomène?
C'est difficile. Moi, je sais que, par exemple, pour ce documentaire-là, j'avais 15 à 20 jeunes femmes qui étaient quand même prêtes à parler.
Sur un appel à témoins.
Voilà. J'en ai sélectionné 5 pour plein de raisons différentes, mais j'en avais 15 à 20 qui étaient prêtes à parler, donc c'est terrible.
On avait travaillé avec Maggie Nestouré parce que, pendant un temps très bref, nous étions rentrés au comité éthique de la Fédération avant de poser notre démission parce qu'on trouvait que on n'y avait pas notre place, on voulait travailler uniquement sur le plan de la victime. Or, les fédérations, elles sont un peu démunies, donc elles font beaucoup de plans, aussi bien les fédérations que le comité olympique, que ministère, des plans de prévention, des plans de communication, des plans de formation sur l'éthique, etc. Mais moi, je dis, et la victime, on en fait quoi ? Et on avait fait une petite étude avec Maggie, mais sur un nombre beaucoup plus large d'athlètes, c'était de l'ordre de 2 sur 3 femmes et quelques hommes aussi. Et alors, chez les jeunes hommes, donc dans les sports à maturité précoce, c'est le même rapport, hein. Attention.
Emma Oudiou, donc dans le Super Moscato Show, si on veut finir sur quelque chose un peu plus positif, est-ce que toi tu perçois des solutions, en tout cas des actions, afin que le phénomène soit endigué tant qu'il est possible de le faire?
Bah déjà, je trouve que ce documentaire-là en soi est une réponse aussi, parce que ça vient du bas, c'est des femmes qui décident de parler. On voit sur les réseaux sociaux le nombre de soutiens qu'on a eu, c'est phénoménal. Et après, en solution, je pense que il y a vraiment tout ce qui est de l'ordre de la sensibilisation à ces violences-là, que ce soit au niveau des encadrants, mais également au niveau des athlètes, leur dire ça, tu n'as pas à le subir, ça représente une violence et donc tu as un droit de refuser.
Emma, merci beaucoup Vincent. Ouais.
Et c'est quoi la solution ? C'est que les femmes entraînent les femmes et...
Non, mais non, parce que tu as des violences aussi entre femmes.
Ouais.
Ça commence par un suicide.
Ouais, on sait bien, Maryse, que les prédateurs, c'est quand même plus les hormones, c'est quand même les hommes.
Alors, quoi, je vais te dire une chose. Les hommes, ils sont élevés par des hommes et des femmes. Donc, je n'exclus jamais la femme là-dedans. Je ne peux pas dire que l'homme est responsable. Et je t'assure que, contrairement à ce que tu penses, il y a énormément aussi de maltraitantes. Parce que là, on parle d'agression sexuelle, mais tu as aussi la maltraitance qui est à la limite, des fois, de la torture. Hein. Mmh. Et ça, je peux te dire que c'est femme comme homme. Moi, j'ai une solution quand même, et j'y tiens, et c'est vraiment très très court, on en parlait un petit peu en antenne. Il faut que les institutions commencent, elles aussi, à engager des poursuites, parce que c'est trop dur pour les victimes. Je donne un exemple précis dans le cas du témoignage de Sarah, l'une des 5 jeunes filles, donc violée par un athlète de l'équipe de France. Eh bien, cet athlète qui est pensionnaire de l'INSEP, qui est très accusé d'ailleurs dans ce témoignage, eh bien peut se porter plainte contre peut se porter partie civile contre l'athlète. Une fédération peut se porter partie civile. C'est tellement plus facile que de laisser l'athlète ou le sportif ou le jeune débrouiller. Tout seul. J'ai le cas d'un jeune, moi, de mon club, qui a été agressé sexuellement en pôle espoir, donc en sport études, par un surveillant du sport études, le sport études doit se porter partie civile et non pas se contenter de renvoyer la personne.
Emma, merci beaucoup. Marie, merci également, puisque c'était son cri du cœur, on va le préciser quand même. Donc le documentaire est très facile à visionner. Vous allez sur Internet, vous tapez suite YouTube, Emma Oudiou éventuellement, si jamais vous ne trouvez pas du premier coup. Et donc le documentaire est disponible gratuitement. Merci beaucoup, Emma.
Merci beaucoup.
Bravo pour ton travail. Dans un instant, c'est Apostruf sur RMC.
Sans transition, la culture pour les truffes. Vincent, il y aura de la musique au Stade de France ce soir. Il y a Major Rugby avant quand même, hein. C'est important.
Ouais, j'espère. Alors, on vient tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC, 15h-18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Allez, on y revient au Mastic dans le Super Moscato Show. Il est 15h48 sur RMC. Place à la culture.
Pour les truffes.
RMC, c'est l'heure d'Apostruf dans le Super Moscato Show.
Let's get to rumble. Ladies and gentlemen, now let's get ready to rumble. On s'y croirait, quoi.
La personne que vous entendez pouffer,
on y est.
T'étais là, Eric Solo, là. C'est toi qui pouffe, comme ça.
Non, mais le problème, c'est ça, c'est qu'il m'a pas laissé bien finir. Tu vois, parce qu'il savait que j'étais bien, tu vois, j'étais bien, il m'a même peu m'affré la fin.
Si tu veux, on te laisse finir, t'attaques.
Non, je suis pas dedans, j'ai perdu ma voix.
Si juste tu veux qu'on te laisse finir, ça va marcher.
Ça va.
Apostruf, la culture pour les truffes, puisqu'il n'y a pas que le sport dans la vie, l'actualité, la culture, les médias. La spécialité d'Apostruf, c'est quand la culture rencontre le sport. Vincent, ce soir, c'est toujours un jour important qu'on aime, un jour qu'on adore dans l'année, c'est la finale du Top 14. Castres Montpellier à 20h45. Vincent a choisi son camp. Vincent souhaite la victoire du Castres Olympique et la culture. Bouche RMC Sport. Vincent, je suis CEO. La culture.
Il a dit
Eric à 15h07.
Je me souhaite pas que le meilleur gagne. J'ai dit
que le rugby en sorte vainqueur.
Que le rugby
voilà,
en sorte vainqueur.
D'abord, j'ai commencé par ça.
Et surtout que la balle aille à l'aile, Vincent. Parce que tu sais qu'à l'aile,
la vie est belle.
Tu sais qu'il y a cette affiche au pouce au crime. T'as remarqué ça ou pas? Le bar de nuit dans le 6e arrondissement de Paris. Tu vois au comptoir, il y a cette affiche avec ce slogan. À l'aile, la balle à l'aile, la vie est belle.
C'est joli, voilà, je trouve.
C'est très joli.
C'est un slogan. École de rugby, école de la vie, ça aussi, c'était un slogan.
Alors, vous allez me dire si vous validez ou pas, puisqu'il y aura donc un concert. C'est désormais la tradition après la finale de Top 14. Les années précédentes, il y avait The Avener, Mika, le chanteur Mika, grand concert. C'était énorme.
Ah, c'est rugby, Mika.
Mika, ouais, troisième ligne. Deuxième ligne, je crois.
Deuxième ligne au Creusot. Très, très bonne dans les taches obscures. Dans le noir. Très, très bonne dans le noir.
Il y avait deux piliers, Big Flo et Oli, qui ont fait le concert aussi au Stade de France l'année dernière.
C'est quand même le père.
Mais oui, bah oui.
Le père, il a des bras. Toujours...
On l'amasse, il nous écoute, Fabien.
Écoute-moi, on l'amasse, mais là, il faut arrêter la muscu.
Big Flo et Oli. Et il y a cette année deux nouveaux artistes. Vous allez me dire si vous validez ou pas, si vous restez à la fin du match pour assister au concert. Le premier, il est très connu en France. Il a vendu des millions d'albums. Les enfants l'adorent, les mamans l'adorent, les papas.
Les yeux de la maman.
Kenji,
c'est
Kenji, on valide.
Elle est très, oui, complètement.
Familial pour une troisième mi-temps de rugby. J'adore Vincent, savoir. Kenji, ouais, ça passe.
Faut peut-être pas chanter celle-là pour troisième mi-temps de rugby quand même.
Non,
parce
non.
C'est pas la plus enjouée. Hein.
Kenji, oui, Kenji, ça va. Deuxième artiste, alors moi je ne le connaissais pas parce que je suis largué, je suis déjà ringard, mais tout le monde, tous les jeunes de la rédaction se sont moqués de moi tout à l'heure. Blind Test. Vincent, il bouge sur ton potin là-dessus, Vincent.
Ah ouais, ça c'est bon, mais ça c'est vieux. Ça.
Et non, c'est une reprise. Ce monsieur s'appelle Soul King. C'est la révélation de la pop urbaine depuis quelques années. Premier tube en 2018, c'est ce que vous entendez. Suavemente.
Très bien, ça pour.
Ça fait un peu
mieux. Ça.
Très bien.
Ça c'est pareil, c'est des canards.
Je me suis trompé. Non, le connais.
Je te rassure, Eric, moi je le connaissais pas.
Non, mais des trucs comme ça, sud-américains et tout.
Mais il n'est pas sud-américain, lui.
Non, ah, mais non, il est français, reprise, c'est la première.
Oui, c'est une reprise. Oui, mais c'est français, mais c'est tout sud-américain.
C'est une
espagnol.
Reprise comme ça, ouais. On appelle ça la pop urbaine. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire.
Ça, c'est pour faire style américain. Pop urbaine. C'est comme.
Alors, voilà,
c'est ça.
Moi, je suis moins c'est, fan, c'est Vincent, cette chanson.
C'est la variette de balle, comme.
Voilà, ça, c'est le Vincent qu'on aime.
Mais non, mais c'est la variette. C'est-à-dire, ça, si tu sais quoi, rentre en studio, Marise, qui est le belle voix, elle fait au-dessus de ça.
Ah ouais, avec 2-3 machines, là, bim, ça y est, c'est un tube.
Deux, voilà. trois machines, chanter
maintenant
Franck,
avec
c'est les faux.
Si tu me produis, on peut tenter.
Mais ça, c'est des reprises, Maryse.
C'est sûr que si tu fais une reprise, si tu fais une reprise de quelque chose qui a cartonné,
c'est ça. Mais voilà, Maryse, c'est ça. Il y en a des super pour faire la fête, c'est génial. Après, on va pas quand même non plus dire bravo le coup du sombrero, mec qui chante. Il y en a eu mille quand j'étais à lui la même chose.
Je suis curieux. Un jour, il a repris du Dalida à sa façon, parole. Il a appelé la chanson Dalida. Là, franchement, moi, je vous donne mon avis, je valide pas.
Je suis désolé.
Et puis arrêtez de chanter avec ce vocodeur là. Oui, montrez-nous ce que vous êtes capable de faire avec votre organe.
Mais calme-toi. Montre-nous avec ton organe ce que tu es capable de faire quand tu es avec toi. Allez, vas-y.
Dès ce soir, j'envoie une vidéo de ce que je suis capable de faire.
C'est les autres qui font chanter avec son organe.
Sur Instagram, Osiris, allez voir, vous allez voir, je suis capable de faire même l'hélicoptère s'il faut.
Comme Cadmeran avec la guitare, tu sais.
Ah ouais, Manistas de las Mitas.
On jugera ce soir, je vous raconterai, je vais au stade ce soir, je vous dirai si le concert c'était bien ou pas.
Voilà, envoie-nous le texto surtout.
Audience télé.
Non, mais ça, forcément, c'est bien. C'est à jouer.
Audience télé, c'est toujours un phénomène, c'est un succès éternel. Je vous donne les chiffres, c'est hallucinant. Musique.
Hier, la 7ème compagnie.
TF1 diffusait le film hier, mais où est donc passée la 7ème compagnie pour la 553ème fois de l'histoire de TF1.
Ça nous rassure de voir ça, Pierrot.
Pierre Mondi, Jean Lefebvre, Aldo Macchione, Éric Collin, réalisé par Robert Lamoureux, 1973.
Chef Chaudard.
Résultat, les amis. En tête des audiences, 4,3 millions de téléspectateurs.
Parce que c'est
pour la 7ème compagnie.
Tu poses le cerveau, tu regardes ça, tu as passé une bonne soirée. Mais rappelle-toi, pendant le premier confinement,
c'était génial.
L'après-midi, il passait des vieux films, là, alors avec De Funès, avec. Mais c'était merveilleux.
Allez, on se reconfine, Eric.
C'était le seul.
En plus, c'était tellement de bonne humeur, Eric.
Mais en plus, c'est vrai, on était de super bonne humeur.
Un de mes extraits favoris, c'est un petit cadeau avant de partir en week-end, les amis. Ils sont déguisés en allemand. Ils ont volé les tenues des Allemands. Ils sont dans un camion, ils vont chez un épicier qui aime bien les Allemands.
Robert Lavoureux,
voilà, ils vont chez un épicier qui adore les Allemands, un épicier français, et ils veulent manger du saucisson à l'ail et ils se régalent, ils nous régalent.
C'est pas du à l'ail. Vous savez du à l'ail?
Du à l'ail?
Mon camarade, il veut du à l'ail. Allez chercher du à l'ail. Tout de suite. Sinon, boum.
Et la scène quand il va nager, qui dit chef comme ça les bras, c'est bien.
Qu'est-ce que vous nagez bien,
chef et tout. Putain.
Voilà. Alors ils ont battu.
Qui est passé par la société de Gaillac.
Ils ont battu Eric. T'as
regardé
le meilleur pâtissier des professionnels sur M6, troisième seulement. Eric, je sais pas si t'as regardé. C'était la reprise. 1,6 million de téléspectateurs. Bon, tu regarderas, tu nous débrieferas parce que là c'est chaud. Là, le pâtissier des professionnels, ça envoie. T'étais où?
Si vous êtes dehors.
Tu faisais quoi hier?
Je faisais la vie, hein.
La vie?
Ah, non, mais
du bon temps.
J'ai le droit d'aller boire l'apéro, d'aller boire des gens.
C'était sympa.
Tu vois, je viens de passer une semaine avec des sangliers, tu vois, donc j'aime bien retourner à la vie normale. Avec des gens qui font des phrases sujets.
Avec tes copains, t'as parlé de Galtier à Paris ou pas? Ça nous intéresse, ça, Eric.
Ça fait partie des sujets de conversation un peu à Marseille, des fois.
Ça devrait être intéressant, ça.
Alors, dit, c'est intéressant. Si mes copains ne comprennent pas.
Allez, dans un instant, le Tour de France, Julien Alaphilippe reprend la compétition ce week-end, ce dimanche au championnat de France. Quel tour pour Julien Alaphilippe? Vous appelez le 32-16 sur RMC pour participer au débat. À tout de suite.